Washington, la voix de l'Amérique. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Bonsoir à tous, Le Monde aujourd'hui, édition du 25 mars 2014, Nathalie Barge en direct à Washington en compagnie de Chérubin Dorsil. Bonsoir Chérubin.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
Au sommaire ce soir, nouvelle violence à Bangui, les anti-Balaka considérés désormais comme ennemis de la force africaine.
Depuis quelques jours, nous considérons au niveau de la MISCA que les anti-Balaka ont franchi un pas et qui fait que nous considérons désormais les anti-Balaka comme étant les ennemis de la MISCA.
Le chef de la MISCA, Jean-Marie Mokoko, et on aura la réaction de Patrice Edouard Nguessona, coordonnateur des anti-Balaka.
Depuis le week-end, les anti-Balaka, dans leur camp, ils étaient attaqués par les contingents burundais et avec les ex-Sirika masqués à la tenue de MISCA burundais.
Dans l'est de la RDC, les populations du Rutshuru fuient face à l'avance des rebelles rwandais des FDLR. Des immigrés africains sans papiers ont accepté de quitter Israël, moyennant une prime de départ. Barack Obama appelle la communauté internationale à parler d'une seule voix contre l'annexion de la Crimée. Et vous entendrez en fin d'émission les sports et la musique de Roger Muntou, mais avant tout le journal.
En République centrafricaine, nouvelle journée de violence à Bangui. Des tirs à l'arme lourde et légère ont encore secoué plusieurs arrondissements. Certaines sources parlent d'affrontements entre la mission internationale de soutien à la Centrafrique, la MISCA, et les miliciens anti-Balaka. Le chef de la MISCA, Jean-Marie Michel Mokoko, a assuré aujourd'hui que les anti-Balaka sont désormais considérés comme les ennemis de la force africaine. Le point avec Timothée Donangmaï.
Des témoins parlent de violents accrochages entre des soldats africains et des miliciens anti-Balaka non loin de l'aéroport de Bangui. Des victimes ont été signalées parmi les civils. Face à la montée de ton entre la force africaine et les miliciens, la MISCA se dit désormais engagée à en découdre avec les anti-Balaka, qu'elle qualifie d'ailleurs d'ennemis. Jean-Marie Michel Mokoko, chef de la MISCA.
Depuis quelques jours, nous considérons au niveau de la MISCA que les anti-Balaka ont franchi un pas et qui fait que nous considérons désormais les anti-Balaka comme étant les ennemis de la MISCA. Parce qu'ils se permettent de tirer sur des gens qui sont venus ici pour essayer de mettre un terme à cette crise et au bénéfice de tous les Centrafricains dont ils font partie.
Plusieurs axes de Bangui ont été barricadés toute la journée par des jeunes des quartiers appuyés par des miliciens anti-Balaka en signe de protestation contre la force africaine. Cette nouvelle spirale de la violence intervient alors qu'environ 3000 éléments des forces armées centrafricaines, les FACA, sont en quartier consigné depuis hier soir au camp Kassai dans le 7e arrondissement.
L'insécurité est persistante dans le nord-est de la RDC. 6 localités dans le territoire de Rutshuru ont été vidées de leur population qui fuit les rebelles rwandais des FDLR. Le point avec Omar Kavota, un responsable de la société civile à Goma.
C'est notamment Rugarama, Shinda, Mutabo, Rutezo, Karambi et Kitagoma dans les groupements de Busanza, territoire de Rutshuru. Les populations vident leur localité à la suite de l'occupation par celle-ci par les rebelles rwandais de FDLR. Après le retrait de FRDC, les rebelles rwandais avaient investi les localités et ils s'illustrent par des exactions contre les civils. C'est depuis 2 mois que les FRDC s'étaient retirés de ces localités, c'est-à-dire après la débâcle du M23, les FRDC ont été engagés dans d'autres opérations, et notamment les opérations contre les rebelles ougandais de l'ADF Nalu à Beni, à Massissi contre l'APCLS et à Walikale contre d'autres groupes armés, mais aussi à Lubero contre les autres FDLR. Mais de ce côté ici, le groupement était déjà dégarni par les FRDC. Il n'y a donc ni FRDC ni policiers, ce qui fait que les FDLR ont profité du vide.
C'était Omar Kavota de la Société civile du Nord Kivu en RDC.
La Guinée fait face à une épidémie de fièvre hémorragique Ebola. La maladie est très contagieuse et pour le moment, il n'y a aucun remède. Des cas suspects ont été signalés également au Libéria. Le point avec Mamadi Koulibaly, directeur du Centre national des maladies infectieuses à Conakry.
Environ 80 cas suspects depuis février. pour environ une cinquantaine de décès. On avait cru à des cas à Conakry, mais aux dernières informations, c'était seulement des entérobactéries. Les analyses, ce que nous apprenons, ont été faites à Dakar et en France. Il faut aussi savoir que les mesures prises par le gouvernement ici sont enseignées et ça passe régulièrement à la radio et même au niveau des radios communautaires pour sensibiliser la population afin que la chaîne soit coupée. L'autorité sanitaire au niveau de la région de Zérékouré est en train de diffuser sur des radios communautaires à la population ces mesures et les médicaments mis à la disposition de ces autorités à destination de la population. Là, c'est le terrain qui commande. On sait, par exemple, que s'il est prohibé l'administration d'antibiotiques, la vitamine du groupe C se comporte bien vis-à-vis d'une infection à virus Ebola.
Mamadi Koulibaly, directeur du Centre national des maladies infectieuses à Conakry.
Les pourparlers de paix entre les belligérants au Soudan du Sud ont repris aujourd'hui à Addis Abeba sous la bannière de l'autorité intergouvernementale pour le développement, une organisation régionale. Jean-Roger Bion.
Les facilitateurs de l'IGAD ont à cœur de remettre sur les rails le dialogue politique devant mener à la réconciliation nationale et à l'apaisement au Soudan du Sud. Les pourparlers de paix avaient été suspendus le 3 mars sans réelle avancée. Le gouvernement sud-soudanais et le camp de l'ancien vice-président Riek Machar, dont les troupes s'affrontent depuis mi-décembre, n'ont eu cesse de violer le cessez-le-feu conclu le 23 janvier dernier. L'IGAD a indiqué ce mardi dans un communiqué rester profondément inquiète de la poursuite des combats au Soudan du Sud et de la violation flagrante par les deux parties de l'accord de cessation des hostilités. Les combats qui ont éclaté le 15 décembre au sein de l'armée sud-soudanaise entre troupes loyales au président Salva Kiir et combattants fidèles à M. Machar avant de se propager dans le jeune pays ont déjà fait plusieurs milliers de morts et près d'un million de déplacés.
Ouverture d'un procès aujourd'hui en Égypte contre le leader des frères musulmans Mohamed Badié et près de 700 membres de la confrérie. Ils font face à des accusations multiples, y compris incitation à la violence et meurtre. La séance a été ajournée au 28 avril quand le verdict sera prononcé ainsi que la sentence. Les avocats de la défense ont boycotté le procès ce mardi pour protester contre la condamnation à mort hier par le même tribunal de 529 membres des frères musulmans.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Barack Obama veut maintenir la pression sur Moscou suite à l'annexion de la Crimée, que le président américain et ses alliés qualifient d'illégale. Lionel Gaïma.
Dans une conférence de presse conjointe avec le Premier ministre hollandais à l'issue d'un sommet sur la sécurité nucléaire à La Haye, M. Obama a plaidé à plusieurs reprises en faveur de l'unité de la communauté mondiale sur le dossier ukrainien.
Working with our European partners and our international partners, we have put in place sanctions that.
Rappelant la décision d'imposer des sanctions à la Russie, le président Obama a mis en garde contre de nouvelles ingérences de Moscou en Ukraine.
There's no expectation that they will be dislodged by force, and so what we can bring to bear.
Le chef de l'exécutif américain continue d'affirmer qu'il n'existe pas d'option militaire pour libérer la Crimée. Mais il espère que les pressions diplomatiques, politiques et économiques indiqueront aux Russes qu'ils ont un prix à payer pour leur violation de l'intégrité de l'Ukraine. En réponse à l'annexion de la Crimée, les pays du G7, les sept pays les plus industrialisés du monde, ont adopté une position commune en refusant de participer au prochain sommet de Sotchi avec la Russie. Ils ont également exclu la Russie du G8. Entre-temps, sur le terrain, les forces russes consolident leur contrôle en Crimée.
Le sommet sur l'énergie nucléaire s'est achevé aujourd'hui à La Haye. 35 pays ont pris l'engagement de transformer les directives internationales sur la sécurité nucléaire en législation au niveau national. L'initiative proposée par les Pays-Bas, les États-Unis et la Corée du Sud requiert aussi une révision indépendante des procédures de chaque pays en matière de sécurité nucléaire.
À Pékin, des proches des passagers du vol 370 de la Malaysia Airlines, portés disparus depuis le 8 mars, ont manifesté devant l'ambassade malaisienne. Entre-temps, les opérations de recherche de l'appareil dans l'océan Indien ont été suspendues. Des précisions de Michel Joseph.
Madame Hu, une des 100 proches et membres des familles chinoises concernées. Ils brandissent des pancartes demandant de savoir la vérité au sujet de l'avion dont les deux tiers des passagers étaient des citoyens chinois. Ils refusent de croire, à défaut de preuves, la conclusion des officiels malaisiens selon lesquels l'appareil s'était abîmé dans le sud de l'océan Indien, à des milliers de kilomètres de son trajet prévu. Pour certains manifestants, ces officiels ne sont que des menteurs et meurtriers. Quand ils ont essayé d'approcher les journalistes présents, la police a tenté de leur barrer la route et il s'en est suivi des accrochages. On fait remarquer qu'il sera très difficile de déterminer où pourrait bien se trouver l'appareil dans ce vaste océan indien, pour citer un responsable militaire australien. Nous ne sommes pas à la recherche d'une aiguille dans une botte de foin. Nous essayons toujours de savoir où se trouve la botte de foin. En raison de la météo défavorable et des mauvaises conditions de mer, les autorités australiennes ont suspendu ce mardi, pendant 24 heures, les recherches.
L'Arabie saoudite a appelé à la fourniture d'une aide militaire additionnelle aux rebelles syriens cherchant à renverser le président Bachar al-Assad. Lors d'une réunion de la Ligue arabe au Koweït, les dirigeants de l'organisation devraient aussi s'engager à soutenir davantage les pays voisins de la Syrie qui ont accueilli des millions de réfugiés depuis le début de la crise en mars 2011.
Deux policiers afghans sont morts aujourd'hui dans un attentat des talibans contre un bureau électoral à Kaboul. Cinq militants ont également trouvé la mort, selon un porte-parole du gouvernement afghan. L'attaque s'est déroulée à proximité de la résidence d'Ashraf Ghani, un des principaux candidats à la présidentielle du 5 avril en Afghanistan. Voilà pour le journal. Nathalie Barge en direct du Studio 13 à Washington en compagnie de Chérubin Dorsil pour Le Monde aujourd'hui sur la Voix de l'Amérique.
Au moins 15 morts, Nathalie, depuis ce week-end à Bangui, dans une énième flambée de violence, principalement aux abords du PK5.
Et oui, ce matin, des échanges de tirs ont encore été entendus dans la zone où de nombreux musulmans sont menacés par des milices anti-Balaka et des pillards. Le week-end dernier, les forces Sangaris et de la Miska sont intervenues dans des affrontements ayant fait au moins 9 morts. Ce qui a été confirmé par Patrice Edouard Nguessona, coordonnateur politique des anti-Balaka. Joint par la Voix de l'Amérique, il dit que son groupe a été attaqué par le contingent burundais avec des ex-Seleka.
Depuis le week-end, les anti-Balaka dans leur camp, ils étaient attaqués par le contingent burundais et avec les ex-Seleka masqués à la tenue de Miska burundais. Derrière l'aéroport, les anti-Balaka étaient obligés de se défendre et repousser l'attaque des contingents burundais. Et ce dimanche, les contingents burundais ont ouvert le feu sur la position des anti-Balaka, enfin sur la population civile de 4e arrondissement. Et cela a poussé la réplique également des anti-Balaka. Il y a eu des morts parmi la population civile que militaire.
Ceci dit, cela est votre version. Cependant, depuis plusieurs jours, les anti-Balaka attaquent des musulmans.
C'est vrai, j'avais souligné ça lors d'un entretien avec des représentants. J'ai dit, mais pourquoi quand ces ex-Seleka font des gaffes, vous n'en parlez pas? Est-ce qu'on vous a fait part des 72 corps à l'hôtel Beau Séjour? On vous a fait part de 4 élèves qui ont été égorgés par les ex-Seleka. Qu'est-ce qu'on vous a dit, ce qu'ils ont fait vers Boda, à 212 centrafricains?
Justement, Joachim Kokate, hein, que vous connaissez très bien, qui s'est désolidarisé du mouvement anti-Balaka, qui est aujourd'hui conseiller de la primature, il a essayé de ramener le calme là-bas. L'on parlait de 11 000 musulmans qui sont en danger. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que ces populations sont encore menacées par les anti-Balaka?
Je ne voulais pas parler de ce monsieur. C'est sa nature de tomber par-ci, par-là. Moi, je ne voulais pas en parler. Est-ce qu'on vous a dit que quand il est allé là-bas, la mission a été un succès ou un échec? Et nous, on a appelé les enfants là-bas de ne pas s'apprendre aux musulmans qui n'ont pas des armes. Notre combat, c'est pour chasser les mercenaires soudanais et tchadiens.
Pourquoi ne vous pliez-vous pas au processus de désarmement en cours?
Quand ils voulaient faire le désarmement, pourquoi ils sont venus tirer sur moi à la maison alors qu'ils n'ont pas trouvé une seule munition? Aujourd'hui, on devait arrêter Doutodia. Il y a Noureddine qui se va. On le laisse revenir avec des Boko Haram. On veut seulement jeter tache d'huile sur les anti-Balaka et peut-être blanchir les Seleka. La paix, c'est de mettre les protagonistes autour de.
C'était Patrice Edouard Nguessona, un représentant des anti-Balaka en Centrafrique.
La Voix de l'Amérique en République centrafricaine à Bangui sur 101.7 FM.
Alors que l'armée nigériane s'en prend à la secte islamiste Boko Haram dans le nord-est du Nigeria, le gouvernement du président Goodluck Jonathan affirme que les militants trouvent refuge dans les pays voisins d'où ils mènent des attaques transfrontalières au Nigeria. Les voisins du Nigeria sont confrontés à une question difficile. comment combattre cette tendance sans devenir eux-mêmes des cibles d'attaque. Deux correspondants de La Voix de l'Amérique, Anne Luc et Moki Edwin Kinzeka, se sont penchés sur la question. Timothée Donangmaï nous présente leur reportage.
Au Niger, la capitale régionale de Difa est juste de l'autre côté de la frontière de l'État de Borno, l'épicentre de l'insurrection au Nigeria. Le préfet de la région de Difa, Inoussa Sauna, dit que sa ville est sur la ligne de front.
Ça reste permanent, hein? On est juste vigilant. Et que jusqu'à présent, ils n'ont pas encore pu faire des opérations sur le territoire nigérien.
En février, l'armée du Niger a déclaré que les autorités ont arrêté 20 militants nigérians de Boko Haram qui auraient planifié des attentats contre Difa. Depuis que le Nigeria a monté une offensive contre Boko Haram en mai dernier, près de 60 000 personnes ont fui le nord-est pour les pays voisins. La plupart sont allées au Niger. Au Cameroun, il est à craindre que Boko Haram n'ait établi des camps dans les zones frontalières montagneuses. Le groupe pourrait être en train de recruter des adeptes. Amaoundé Mohamed est l'imam d'une mosquée à Kolofata, une ville camerounaise près de la frontière du Nigeria.
Oui, Boko Haram vient recruter ici, c'est vrai. L'État ne dit pas la vérité, l'État ne dit rien.
Sanoussi Ibrahim, un prédicateur de Boko Haram de l'État de Borno, a été détenu pendant 3 mois par les autorités camerounaises. Un journaliste de La Voix de l'Amérique l'a interviewé ce mois-ci dans l'extrême nord du Cameroun. Je suis ici pour prêcher le message d'Allah. Je ne fais que transmettre le message de l'islam. Le Nigeria a fermé une partie de sa frontière avec le Cameroun, arguant que les militants ont utilisé ce pays comme base pour se faufiler au Nigeria et mener des attaques. Le ministre camerounais de la communication, Issa Chiroma Bakari, rejette les allégations selon lesquelles son pays serait complaisant ou indulgent face à une menace terroriste régionale.
Let me say here that such allegations are irresponsible and ungrounded.
Permettez-moi de dire ici que ces allégations sont irresponsables et sans fondement. La secte a effectué 2 enlèvements de citoyens occidentaux au Cameroun, mais les militants nigérians ont plutôt ménagé ce pays. Cela pourrait changer si le Cameroun adopte une position plus agressive.
Près de 3000 immigrés africains sans papiers ont accepté de quitter Israël, moyennant une prime de départ. Pour les autorités, il s'agit d'un acte volontaire de la part des immigrés, mais les activistes qui militent pour la cause des demandeurs d'asile parlent, eux, de pression. Jacques Aristide a joint Scott Bob, chef du bureau de la Voix de l'Amérique à Jérusalem.
Israël, depuis quelques années, essaie de réduire le nombre d'immigrants africains que, pour l'Israël, le gouvernement sont des immigrants économiques qui cherchent seulement du travail. Pourtant, bien que les immigrants disent qu'ils fuient des régimes autoritaires et peut-être même la mort, alors ils ont pu déporter plusieurs centaines, peut-être quelques mille réfugiés, par exemple, de Côte d'Ivoire et du Sud-Soudan, disant que bon, les guerres chez eux étaient finies, donc ils pouvaient rentrer chez eux. Mais pour le cas de Érythrée et du Soudan même, comme il y a encore des conflits et beaucoup de problèmes de droits de l'homme, c'est très difficile, selon les statuts internationaux, pour déporter ces gens. Donc, le gouvernement essaie de trouver une solution. Et cette solution, pour le moment, apparaît être de les encourager, pressionner même, de quitter le pays volontairement.
Scott, nous savons que des milliers d'immigrés africains ont manifesté ces derniers mois contre le refus des autorités israéliennes de leur accorder le statut de réfugié. Donc, ce transfert d'immigrés africains vers ce pays tiers n'est-il pas une déportation, un tant soit peu déguisée ?
En principe, non, parce que c'est volontaire. Ils acceptent une somme de 3 500 $ et un billet d'avion gratuit et ils volontairement prennent le chemin pour ce pays. Mais comme tu as souligné, ils sont très pressionnés. Ils sont en plus maintenant dans cette facilité, c'est une prison ersatz où ils subissent, ils sont isolés, ils peuvent sortir pour quelques heures, mais ils doivent toujours rentrer le soir. Et donc, c'est une pression pour qu'ils quittent volontairement le pays. Beaucoup n'ont pas accepté cette offre et disent que non, c'est la mort certaine qui leur attend chez eux. Donc, ils préfèrent de rester dans une sorte d'incertitude en attendant que peut-être la demande d'asile peut-être serait accordée.
Voilà donc un sujet très polémique, en quelque sorte, en Israël.
Polémique et difficile, parce qu'il y a quand même des Israéliens qui supportent beaucoup les migrants, disant que c'est pas juste. Il faut pas oublier que les Juifs, les Israéliens eux-mêmes, ont été des réfugiés pendant des millénaires et ont souffert beaucoup partout dans le monde. Donc pourquoi ils commencent à traiter des gens comme si eux, c'était comme ils ont été traités, donc. Et alors, ils ont beaucoup de soutien parmi certains groupes et qui les appuient. Et c'est pour ça que ce cas, cette détention dans cette facilité, sera présentée devant la Cour suprême à partir du 1er avril.
Voilà, c'était Scott Bob, chef du bureau de la Voix de l'Amérique à Jérusalem.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
Selon l'Organisation mondiale de la santé, la pollution de l'air est maintenant la plus grande menace pour notre santé en matière de qualité de l'environnement. Un nouveau rapport de l'OMS conclut que 7 millions de personnes sont mortes en 2012 de l'exposition à l'air contaminé. Michel Joseph.
La pollution atmosphérique est un problème mondial. L'OMS estime qu'une personne sur 8 dans le monde meurt de la pollution de l'air. Des données récentes montrent que les personnes exposées à la pollution de l'air, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, meurent prématurément de maladies cardiovasculaires telles que les accidents vasculaires cérébraux et les attaques cardiaques ischémiques ainsi que les maladies pulmonaires chroniques et le cancer. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la plupart des décès dus à la pollution de l'air surviennent dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires en Asie du Sud-Est et dans le Pacifique occidental, où environ la moitié de la population mondiale chauffe leur maison et prépare à manger en utilisant les feux ouverts et poêles simples. Les responsables sanitaires estiment que l'utilisation de charbon et de biomasse combustible, tels que le bois, les déjections animales et les déchets agricoles, est responsable de la mort prématurée de 4,2 millions de personnes en 2012. Ils ont aussi relevé un lien entre 3,7 millions d'autres décès dans les zones urbaines et rurales et la pollution de l'air extérieur. Carlos Dora, coordinateur de programme de santé publique à l'OMS, dit que l'air ne peut pas être acheté en bouteille.
To resolve this issue, it's quite important that countries, nations take action, which is more or less coordinated.
Pour résoudre ce problème, il est très important que les pays, les nations, prennent des mesures plus ou moins coordonnées. Et la raison en est que ces minuscules particules d'air que l'on partage parcourent des milliers de kilomètres normalement autour de l'hémisphère vers l'Est. Alors, la pollution dans un pays aura une incidence sur un certain nombre d'autres pays sous le vent. La pollution de l'air était autrefois pire dans les pays développés que dans les pays en développement, fait remarquer Dr Dora, mais il affirme que les pays développés, notamment le Royaume-Uni et les États-Unis, ont pris des mesures qui ont considérablement réduit la pollution de l'air au cours des 10 dernières années.
Alors, oui, Nathalie.
Ici Washington, donc vous écoutez La Voix de l'Amérique en direct du Studio 13. Et à présent, on va parler un petit peu sport avec Timothée Donangmaï. Alors, bonsoir Timothée.
Bonsoir Nathalie.
Open de tennis en Floride. Le triple champion du tournoi Novak donc s'est qualifié aujourd'hui pour les quarts de finale.
Et oui Nathalie, Novak Djokovic qui a défait Tommy Robredo en 2-7, 6-3 et 7-5.
Alors, quelques résultats de basketball professionnel nord-américain, la NBA.
Eh bien, San Antonio a enregistré hier sa 14e victoire d'affilée en battant Philadelphie 113 à 91. Philadelphie qui a ainsi encaissé sa 25e défaite consécutive. Et hier soir, LeBron James a marqué 32 points pour aider Miami à battre Portland 93 à 91. Et il a ainsi pu offrir à son coéquipier Chris Bosh un beau cadeau d'anniversaire. Et Chris Bosh qui fêtait ses 30 ans hier. Et Houston a défait Charlotte 100 à 89, victoire de Chicago contre Indiana 99 à 77 et Brooklyn s'est imposé après prolongation 109 à 104, c'était face à la Nouvelle-Orléans.
Et Timothée, Amnesty International a appelé la FIFA à cesser de fuir ses responsabilités en relation avec les droits des travailleurs au Qatar, pays devant abriter la Coupe du Monde de 2022.
Et oui Nathalie, le Qatar est accusé de maltraiter les travailleurs migrants dans le secteur du bâtiment. Et le journal britannique The Guardian a rapporté en septembre dernier que des dizaines de travailleurs népalais sont morts l'an dernier au Qatar. Alors Amnesty et la Confédération internationale des syndicats craignent que la situation des travailleurs au Qatar ne se dégrade avec les travaux de construction des infrastructures du Mondial 2022.
Alors toujours dans le domaine du bâtiment, les architectes de David Beckham lui ont recommandé le port de Miami comme site du stade du club de football de la Ligue professionnelle américaine que l'ancien capitaine anglais envisage de lancer.
Et le plan prévoit un stade ouvert sur la baie de Miami avec entre 21 000 et 35 000 places. D'autres sites sont aussi à l'étude, notamment l'Université internationale de Miami. Pour l'heure, Nathalie, Beckham n'a pas fixé la date d'entrée en compétition de son club, sa priorité étant de convaincre l'Assemblée de l'État de Floride d'apporter sa contribution à l'entreprise.
Alors, on termine par cette nouvelle. L'ancien joueur de la NBA, Quinton Ross, a eu une journée difficile hier.
C'est le cas de le dire, Nathalie. À son réveil, il s'est rendu compte que sa messagerie vocale était pleine de messages de ses proches et amis qui s'inquiétaient, qui s'inquiétaient de ses nouvelles. Ayant accédé à Internet, notre ami Quinton Ross a vu que le journal New York Post avait identifié une personne morte et trouvée enterrée sur la plage comme étant Ross. Alors, ce dernier a donc passé toute la journée d'hier à retourner les appels et rassurer ses amis et connaissances qu'il est encore de ce monde.
Alors on dit que vous êtes mort, comment osez-vous protester?
C'est bien la preuve, s'il en était, qu'il n'est pas tout à fait parti de ce monde, qu'il est là.
Merci Timothée.
Présent la page musicale, on reçoit Roger Muntou. Alors Roger, bonsoir, de quoi nous parles-tu ce soir?
Bonsoir Nathalie. Alors Alicia Keys est devenue le phénomène de la musique soul, composant et écrivant elle-même ses chansons. Hein. Elle s'y différencie des artistes formatés ou échappe au mode. Ici en featuring avec deux grands du hip-hop, Dr. Dre et 50 Cent, dans la chanson qu'adorent nos amis de Bamako, New Day.
It don't take much strength to pull a trigger, but try and get up every morning, day after day, and work for a living. Let's see him try that. Then we'll see who's the real tough guy. The working man is the tough guy.
How do people say? How do people say? Hey, it's a new day. It's a new day. The world is getting ready. Everybody ready.
This morning, thinking about the old me, when I was feeling like Miller Lite and O.E. But now I ride on some conscious. I'm getting bread while I toast to my accomplishments. Only one like I have a problem with is myself. That's probably why my only competition is myself. From today to tomorrow, the doctor just rocked to the same drum. The past, though, I ain't forgot where I came from.
Alors Alicia Keys a plusieurs origines, irlandaise, italienne, portoricaine,
ouais.
Et c'est sa maman qui l'a élevée toute seule.
Exactement Nathalie, après la séparation de ses parents, alors qu'elle n'a que 3 ans, hein, elle est élevée par sa mère, comme tu venais de le dire, qui l'encourage alors à suivre la voie artistique qu'elle désire. Et c'est à l'âge de 7 ans qu'elle étudie la musique classique. À 16 ans Nathalie, tout juste diplômée de Manhattan Professional Performance Art School, Alicia Keys arrête ses études pour s'élancer dans la chanson.
Your knees on the church floor, break it better, push the dough on the liquor store, see where it gets you. For me, I got to be on top. I said, me, I got to be on top. I got the street on lock. I'm an automatic pilot. Ain't nobody stopping me. Growing up in poverty, ain't fill my heart with larceny. Ride out on high. I dump to get them off of me. I'm a leader. Look and see the natural born boss of me. They're from Bel Air. I'm from the bottom.
Et voilà, c'est toujours intéressant d'en savoir un petit peu plus sur tous ces artistes qu'on écoute régulièrement. Donc Alicia Keys en featuring avec Dr. Dre et 50 Cent dans New Day. Exact. Merci beaucoup, Roger.
De rien, Nathalie, à plus.
Roger Muntou, que l'on retrouve tous les soirs à 20h, donc bientôt dans le RM Show, comme son nom l'indique.
Et c'est déjà la fin de l'émission, Nathalie.
Oui, alors donc l'émission était donc présentée par Nathalie Barge et Chérubin Dorsil. La mise en onde était dirigée par Joselle Morissin. À la technique, à la console, c'était Souleymane Tarawalé. Vous pouvez laisser vos messages sur fr@voanews.com. Très bonne